Merci. J'espère que tu vas pas être déçu. C'est un petit peu compliqué cette préparation de message pour moi. Alors je l'ai appelé. Ce que je souhaite pour toi, c'est que tu remportes les batailles de ta vie dont tu ne parles à personne. Aujourd'hui, moi actuellement, je vis une période un peu de nuit spirituelle. C'est un peu compliqué. C'est une période d'angoisse, de peur, de sentiments de culpabilité et de faiblesse. Et en préparant ce message, il y a une petite anecdote, c'est que je suis tombé sur un texte de Billy Graham sur l'assurance du salut. Et il dit « Bien des gens viennent à Christ sans en calculer d'abord le prix. Ce prix à payer, c'est la repentance, l'abandon du péché, une acceptation visible, continuelle, journalière de Christ dans votre vie. » Et il termine comme ça « La vie chrétienne, ce n'est pas pour les faibles, les peureux et les lâches. » Et là, je me dis « Mince !» Seigneur, j'ai fait un mauvais calcul. Et en fait, pour la première fois, je n'avais pas la moindre idée du message que je souhaitais partager, il y a encore 2 jours. Et ce, malgré le fait que je suis très honoré de pouvoir parler devant vous. Mais oui, d'habitude, j'ai toujours une idée, quelque chose à quoi me raccrocher, et là, rien. Là, c'est le silence, le désert. Et bon, pourtant, malgré toute cette période un peu sombre, je sais aussi que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours rose depuis le temps, et qu'il faudra attendre la résurrection pour que tout soit parfait. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Donc aujourd'hui, je vais prêcher autant pour moi que pour vous. Donc le thème, ça sera de ce partage, ça sera autour de la souffrance. Ça, pas très joyeux, mais bon, si ça vous dit, j'aimerais bien qu'on rende ça interactif. Moi, l'idée que je me fais de l'Église primitive, elle est ancrée dans le judaïsme de son époque, c'est que quand on regarde les épîtres de Paul, au-delà du désordre, ça devait être quand même bruyant. Hein, dans 1 Corinthiens 14, moi j'imagine que donc, à l'image des synagogues, les femmes et les hommes sont séparés, il y a un ping-pong théologique qui se fait entre la personne qui prend la parole et l'assemblée, et les femmes en haut qui crient à leur mari pour demander des explications. Voilà. Donc si vous voulez, on va discuter un petit peu là, ce matin. Aussi, je vais donner pas mal de citations. Alors il y aura des versets, il y aura des citations, il y aura des termes que je vais employer. Si jamais vous ne les connaissez pas, franchement, interrompez-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pour commencer, j'ai eu 3 versets à cœur pour cette préparation. Le premier, c'est le psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le deuxième verset, c'est Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et le dernier, c'est Jean 6:37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ainsi, je sais que Dieu est près de moi, que si je fais un pas vers lui, il est prompt pour accourir vers moi, et qu'il ne me rejette pas. C'est ce que nous raconte la parabole du fils prodigue. Mais alors, pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on passe par des moments si difficiles? Pourquoi est-ce qu'il y a le mal, la souffrance? Donc on va commencer le côté interactif. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Je vous laisse 30 secondes. C'est une question compliquée, hein. C'est une question difficile en apologétique. Donc l'apologétique, c'est la défense de la doctrine de la foi, voilà, pour ceux qui se posent la question. Il y a énormément de débats théologiques houleux, c'est connu pour être un sujet où on se casse facilement les dents, le débat de la souffrance. Et j'ai même le souvenir d'un théologien qui a refusé de répondre à cette question, dans la mesure où pour lui, ça revenait à trouver une justification au mal, à l'existence du mal. Enfin bon, je ne vais pas développer là-dessus. Vous avez aucune idée? Oui. Donc Paul disait, je participe aux souffrances de Christ, oui. Vous avez d'autres idées? Le choix. Exact, le libre arbitre. Le choix de la vie et de la mort, exactement. Au total, il y a 4 axes en apologétique. Le fait que Satan est le prince de ce monde. Donc le péché. Voilà. Se rapprocher de Dieu, Ah, c'est bien, là on est en train de balayer les quatre axes apologétiques de la question de la souffrance du mal. Donc dans les quatre axes, il y a le libre arbitre. Dieu a créé les humains libres, donc la liberté permet l'amour, mais elle permet aussi le choix du mal. Voilà. Il y a l'axe du bien supérieur. La souffrance peut permettre un plus grand bien, comme le courage, le pardon ou la croissance morale. Ça va, je... Le troisième axe, c'est la perspective chrétienne de la croix. Dieu ne reste pas indifférent, il souffre avec l'humanité en Jésus-Christ. Et le quatrième axe, c'est l'horizon de l'éternité. La justice et la réparation finale se trouvent dans l'au-delà, en remettant les injustices terrestres en perspective. J'espère que vous avez tous un axe qui vous parle. C'est plusieurs. Est-ce qu'il y en a un qui ne vous parle pas du tout, juste par curiosité, ou un qui vous parle plus que les autres? Moi, dans mon cas, l'axe qui me parle le plus, c'est l'axe du bien supérieur. L'axe du bien supérieur. C'est, pour rappel, c'est la souffrance peut permettre un plus grand bien. Parce que pour moi, c'est le plus concret et matériel dans cette vie. Et c'est celui des trois axes qui est le moins dans la vie à venir. Voilà. Donc dans l'immédiat, surtout dans les périodes difficiles, je trouve que c'est celui qui parle le plus. Et cette question de la souffrance, j'aime bien les travaux de Viktor Frankl sur le sujet. Est-ce que quelqu'un connaît Viktor Frankl? Jamais entendu parler? Même pas Marie-Jo? Viktor Frankl, ça te parle? Oui, ça te parle. Hein. Donc, Viktor Frankl, c'était un psychiatre et neurologue et philosophe autrichien. Il est connu pour avoir écrit un chef-d'œuvre autobiographique sur découvrir un sens à sa vie. En fait, Viktor Frankl, il est rescapé des camps de concentration nazis et il a centré toute son œuvre sur la conviction profonde que la motivation première de l'être humain, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est la quête de sens. Et il a écrit ça. C'est des travaux, ce dont je vous parle, c'est des travaux d'une vie. Hein. Il a travaillé avec plein de juifs rescapés des camps de concentration, à chercher à comprendre pourquoi certains ont survécu et pas d'autres, qu'est-ce qui a fait la différence. Et il a écrit « Rien au monde ne nous aide autant à survivre que d'avoir un but dans l'existence. Celui qui connaît le pourquoi de sa vie peut endurer presque tous les communs. » Charles Dickens, donc c'est l'auteur d'Oliver Twist, était boiteux. Handel, un compositeur contemporain de Bach, l'était aussi. Homère, celui qui a écrit l'Odyssée, était aveugle. Platon était bossu. Sir Walter Scott, un célèbre poète irlandais, était paralysé. Et Paul a passé plus de 7 ans de son ministère en prison. Qu'est-ce qui a permis à chacun de ces gens de surmonter leur handicap? Un but. Chacun d'eux avait un rêve nourri par une flamme impossible à éteindre. Leur pourquoi surpassait tous les communs. C'est beau? Moi, je trouve que c'est très inspirant. J'aime bien avoir des exemples d'hommes historiques comme ça qui ont surmonté leurs échecs, leurs maladies, en me disant que moi, à leur place, avec tellement d'épreuves, j'aurais sûrement abandonné. Mais eux, ils ont persévéré jusqu'au bout. Et cette persévérance, on en parle dans l'épître de Jacques et l'épître aux Hébreux. Le premier, c'est dans Jacques 1, 3 à 4. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et le second verset dans Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc du coup, cette persévérance, donc, elle est appelée à s'accomplir dans cette vie et dans celle à venir. Mais du coup, là aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, à quoi elle sert cette persévérance? Est-ce que vous avez participé? Est-ce que vous avez des idées pourquoi on nous parle de pourquoi je vous parle là de ces versets de persévérance. Marcher un pas après l'autre. C'est la foi, c'est, pardon, faire grandir notre foi. Et dans le cadre de la souffrance, j'avais gardé une citation de Horace Jackson Brown Jr. C'est l'auteur de « Lisez-moi, petit manuel de la vie ». C'est un livre qu'il a écrit comme cadeau de départ pour son fils au moment où il rentrait à l'université. Et dedans, il y a 511 conseils pour mener une vie, entre guillemets, heureuse et enrichissante. Et c'est devenu un best-seller mondial. Et lui, il a écrit « Dans une rivière, le courant sort toujours de son combat contre le rocher. Non par sa force, mais par sa persévérance. » La persévérance pour surmonter les obstacles. Alors, c'est des belles paroles, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est inaudible. Peut-être que vous avez souffert trop longtemps, peut-être que vous vous êtes débattu avec vos problèmes depuis trop longtemps, avec une addiction, avec des problèmes financiers, avec des enfants qui sont éloignés, des relations familiales compliquées, des émotions qui vous submergent, des persécutions dans votre famille ou sur votre lieu de travail. En réponse à ça, je vous propose de lire ce que Paul a écrit à Timothée. Donc Paul, qui avait une écharpe dans la chair, qu'il a demandé maintes fois au Seigneur de lui enlever, il lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Il a connu l'oppression, il a connu la menace, la prison, l'abondance, la disette. Et dans 2 Timothée 4 à 17, il dit « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi » et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et pour étayer, j'ai un autre verset. C'est un verset dans lequel Dieu s'adresse à Israël, mais les chrétiens sont les héritiers des promesses faites à Abraham et à Israël par leur union en Jésus. Donc je vais lire ce verset comme si ça s'adressait personnellement à chacun. Le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Tu passeras les fleuves et tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Je suis ton Dieu, je suis ton sauveur, tu es précieux et je t'aime. Et tout ce que je viens de dire, on pourra le résumer avec un verset. C'est le psaume 37,5 qui est « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui.
Du coup, mon message va être très court. Ce qui m'a interpellé une fois, c'est dans ces périodes sombres où vraiment j'étais désespéré ou amorphe. Un jour, j'ai quelque chose qui m'a interpellé. Je scrollais sur mon téléphone et puis je tombe sur une image, si tu peux l'afficher, Damaris. Alors c'est l'image d'une peinture, je ne sais pas si elle était... Si j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé l'auteur, donc c'est peut-être généré par IA, j'en suis pas sûr. Donc on y voit Jésus et un homme, ça ressemble à une peinture baroque, avec Jésus portant la couronne d'épines et ayant la chair meurtrie qui pose sa main sur la poitrine de l'homme. Et en fait, c'était divisé en série d'images, toujours la même image, mais avec un dialogue entre ces deux protagonistes. Et en fait, j'ai été particulièrement touché parce que j'aurais pu être l'homme qui parle à Jésus. Et bon, c'est en anglais, donc je l'ai traduit comme j'ai pu. Alors, pour pas que ce soit trop bizarre et que je fasse les deux voix, je vais demander à Anaïs de me donner la réplique. Donc, aujourd'hui, on fait 12 ans de mariage. Voilà. 12 ans. Voilà. Donc, toi, tu vas faire Dieu et moi, je vais faire l'homme. Ça. J'ai touché l'enfer, Seigneur. J'ai regardé au fond de lui et une partie de moi ne pensait pas que j'en reviendrais.
Je sais, j'y suis allé le premier, pour toi.
Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé aller si loin ?
Parce que les eaux peu profondes ne forment que des hommes peu profonds. J'avais besoin que tu connaisses les profondeurs afin que tu puisses en sortir d'autres après toi.
Seigneur, j'ai cru que tu m'avais abandonné.
Je connais aussi ce sentiment. Je l'ai crié depuis la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je ne t'ai pas abandonné. Je suis resté silencieux pour que tu apprennes à reconnaître ma voix au milieu du bruit.
Seigneur, les ténèbres m'ont changé. Je ne sais plus qui je suis.
Moi, je le sais. Tu es la même personne que celle que je connaissais avant même que le temps n'existe. Les ténèbres ne t'ont pas défini. Elles ont révélé ce qui devait être consumé.
Seigneur, quel était le sens de tout cela, toute cette souffrance, toutes ces ténèbres, toutes ces pertes ?
Chaque blessure que tu portes est une porte par laquelle j'ai l'intention de faire passer quelqu'un d'autre. Ton histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer.
Seigneur, j'ai peur d'espérer à nouveau.
L'espérance n'est pas un sentiment, c'est une décision que tu prends dans les ténèbres. Tu n'as pas besoin de la ressentir. Tu dois simplement faire un pas vers elle.
Seigneur, je n'en ai pas la force.
Paul a écrit depuis une cellule de prison. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Il n'était pas fort. Il s'était abandonné entre les mains de Dieu. Il y a une grande différence.
Seigneur, alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?
Mon fils prodigue, lève-toi et rentre à la maison. J'ai préparé une place, rien que pour toi.